C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Bonsoir, mon Pierre.
Bonsoir, Mario. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, Robbie. Bonsoir, tous les deux.
Bonsoir, Steph. Et notre invité, Robbie Hart. Connaissez-vous Robbie, les gars?
Non.
On se rencontre à ce soir, là.
Ouais, c'est fun. Ça va être le fun.
C'est fantastique.
Robbie qui nous présente son documentaire sur les expos. Puis honnêtement, je l'ai visionné ce soir en suspens. Et puis, on va écouter un bout de la bande-annonce. Question de nous mettre dedans.
Ben oui.
C'était vraiment un lien profond.
On a tombé en amour.
C'était des méga vedettes.
Love touching.
Alors, ça donne un petit avant-goût. Robbie, ça a été pour toi, puis c'est pas le premier à le dire, j'ai lu ça quelque part dans les critiques qu'il y avait par rapport d'appréciation sur le film. Pour toi, les expos, c'est une passion, mais c'est une obsession aussi, hein, d'une certaine façon.
Odyssée, obsession, passion, tous ces mots-là sont pertinents. Mais tu sais que j'ai fait un film pour les garder à Montréal. C'était à l'époque où on les avait encore. Puis c'était un film pour... On veut sauver les expos. Puis c'était un peu 98 jusqu'à 2002-2003. Puis là, j'ai essayé de faire un autre film pour les ramener. Donc, un peu fou. Mais celui-ci, c'est vraiment le biblique. Comme l'histoire... C'est pas juste les ramener, c'était l'histoire complète.
Oui.
C'est toutes les grands moments de l'équipe. Donc, c'était comme deux films à l'intérieur du même. Là, tu l'as vu?
Oh oui, vraiment.
Je saute entre les grands moments, les grands personnages et la trame narrative. Essayons de les ramener. Et ça a duré 10 ans.
J'adorais ça, Robbie. Honnêtement, j'ai été ému même. Tu sais, veux pas. C'est tellement. Tu sais, on appelait. C'est rare. Tu sais, même tu viens de me donner un chandail, nos amours. C'est vrai que c'est difficile à comprendre qu'on... Je sais pas qui a inventé l'appellation de nos amours pour les expos. Stéphane, t'es un maniaque de baseball.
Ben ouais.
Jeff, t'as joué au baseball. As-tu été en amour, toi aussi, avec le baseball, à un moment donné?
Moi, j'ai Trois-Rivières, puis étant jeune, j'allais voir les Aigles de Trois-Rivières, de la Ligue Eastern. On a eu des grands joueurs de baseball qui sont passés par Trois-Rivières, les Ken Griffey, puis les ainsi de suite. Ouais. Beaucoup de grands joueurs qui sont passés par Trois-Rivières. Fait que, tu sais, les expos, pour moi, mon père, c'était un maniaque de baseball. Je le revois encore au chalet. On n'avait pas l'électricité, rien. Puis il était dans sa voiture. Puis il écoutait les matchs des expos.
À radio.
je te le dis.
Dans l'auto?
Mais dans l'auto. Je te le dis. Tu sors dans l'auto. Puis à l'époque, ça fait longtemps de ça. Mm-hmm.
Stéphane, toi, évidemment, j'ai pas besoin de te vendre le baseball. C'est une partie de ta vie, le baseball.
Ah ouais, c'est une grosse partie de ma vie à Sherbrooke. Tout le monde me connaisse beaucoup plus à cause du baseball que du hockey. Et puis, écoute, les expos, j'ai grandi avec les expos, et puis, ils ont tout été mes idoles. J'ai encore mal au cœur quand je vois les Nationals, ça me fait encore de quoi. La semaine passée, j'ai eu le plaisir de participer au souper à Laval pour ramasser des fonds.
Expo Fest.
Ah, j'étais là aussi.
Ah, t'étais là.
Ben
belle activité. C'était 3 ans que Perry m'invite là.
Ah, et Perry, moi, on est proche, là.
Ouais, OK, bon. Et puis, quelle belle activité. J'étais dans un local avant qu'on soit présenté, les invités.
Ben oui.
J'étais dans un local avec tous les joueurs.
Ben oui, Carbonneau était là.
Exactement.
On s'est vu à ce moment-là.
Mais c'était le fun de voir les anciens, comment ils étaient contents de se revoir.
Ben oui. Et, Pedro.
Pedro qui était là, Facero, O. Henry, Sean Berry, Jeff Facero. C'était, tu vois qu'encore les fans sont encore fans plus que jamais. Et puis, écoute, ton film, j'ai tellement hâte de le voir. J'ai vu la bande-annonce, allez voir ça, là. Juste en voyant la bande-annonce, il faut que je vois ça au plus vite. Ça va être quelque chose de spécial.
Oui, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Puis on a fait l'ouverture de Expos Fest, pour parler de ça. Le jeudi soir, il y avait Steve Rogers, Rondell White, Cliff Floyd, Tim Spear, puis Mike Lansing, ils étaient tous là. C'était plutôt le on s'entend, on est 20-24, donc c'était les 30e du 94. Hein, donc mm-hmm. c'était l'équipe de 94.
Mais c'est magique ces noms-là. Hein? C'est magique. Ouais. On entend ça, puis c'est magique.
Ils ont tous vu le film, là, tu sais, puis ils étaient là en train de signer les autographes. On était 350 au marché central.
Ils ont assisté à la première.
Ah oui. Puis la deuxième, j'en ai fait un premier.
Ça a été quoi leur. Tu regardais-tu comment qu'ils regardaient le film?
Steve Rogers, on a eu des très bonnes discussions. C'était un gars très intelligent, un brillant bonhomme, là, tu sais, puis on a eu des très bonnes conversations. Je veux juste dire qu'ils ont beaucoup apprécié ça parce que, et ils me disent tous, même la femme de Perry, Janice, qui organise ça avec lui, il dit, et la femme d'Alain Choquette, parce qu'Alain Choquette est dans le film, ils étaient tous les deux, ces deux femmes-là, ils sont venus à, là, je comprends. ils sont mariés avec des vrais, des maniaques, des expos.
Ah, la femme comprenait pas la passion de l'homme.
Oui,
par rapport
même
aux expos.
Même s'ils savent tout ça, puis ils voient la collection et tout ça, ils disent, après avoir vu ton film, là je comprends, c'est la profondeur et jusqu'à quel point ça va. Et ça, c'est le meilleur compliment parce qu'on parle de deux personnes qui sont pas attachées au sujet, puis là, ils disent, ah, je comprends mon chum, tu sais. À cause du film.
Mais c'est émouvant parce que, tu sais, un stade olympique plein, les gars, là. Mm-hmm. Tu sais, on a beau trouver tous les défauts du monde à ce stade-là. Il n'y avait jamais de défaut quand il y avait du monde dedans puis qu'il y avait un bon match. Hein?
C'était le pire stade. C'était le pire stade, mais c'était wow.
C'était big. Et Philippe Quentin, qui est dans les ondes aussi sur cette station beaucoup, il est dans mon film. Oui. Et puis quand il dit. Les années 80, 79, 80, 81, 82, 83, il y avait deux
millions et plus.
Les expos, c'était en avant du Canadien, là. Tu sais, je veux dire.
Bon, exact.
Number one in town.
Exact.
Puis, 2,5 millions plus, 55 000, 60 000, 45 000 à tous les soirs. C'était quelque chose.
Ben,
c'était
le parc Jarry, là. C'était le parc Jarry, tu vois les images de ça maintenant.
Je suis jamais allé au parc Jarry.
Non, moi non plus, mais tu vois les images de ça, c'était.
Dans le film.
Incroyable.
Il y a beaucoup dans le parc.
OK. Oui.
Fernand Lapierre était là.
Ah oui.
L'organiste.
L'organiste est venu, il a pleuré, il a braillé. Je te dis, il a braillé. Il m'a pris dans ses bras, puis il dit merci. J'en viens pas. Parce qu'il y a des longues scènes sur Jarry que je fais. On remonte dans le temps parce que Brofman est dans le film, puis on parle du. Ben, tu l'as vu le film, là, Mario, tu le sais. On s'en va à Jarry. Moi, je fais tous les grands moments, tous les grands chapitres de l'histoire des expos. Et Fernand vient me voir. Il était là au cinéma Guzzo, pas à Expos Fest, la projection Expos Fest. Puis je savais pas que c'était lui. Puis il y avait des larmes. Puis il me tient dans ses bras, puis il dit merci, mais c'était qui? Il dit, je suis Fernand Lapierre.
Bon, les gars, il va sauter dessus, là.
Oh my God! Là, j'avais des larmes aussi.
Ça t'a ému, toi aussi.
Oh my God, oui. Là, je l'ai tenu dans mes bras. C'était un gros hug, là, tu sais, comme il faut, là.
Ah, c'est vraiment spécial. Ouais. En même temps, je veux te dire, c'est tellement profond, tu sais, quelque chose qui prend autant de place dans autant de jeunesse, d'autant de monde, là. Je vais revenir dans un instant, mais tu sais que le vendredi, Robbie, je te l'ai dit, on t'a invité dans un cadre relax, festif, relax, avec Pierre, mon ami Pierre, qui nous présente toujours un petit vin à déguster ce soir. Et Pierre, qu'est-ce que tu nous as dégoté, déniché ce soir, cette semaine?
Ce soir, mon cher ami, c'est encore bon.
Ça se boit très bien.
Écoute, ça se boit très bien. Écoute, la saison estivale s'en vient, les belles températures. Alors, on va commencer à déguster plus des pinots noirs, des beaujolais, des trucs comme ça. Peut-être même des bulles, un moment donné, puis des vins blancs. Mais ce soir, c'est un pinot noir qui vient de la Loire. Ça s'appelle la Petite Perrière 2022. C'est dans les rayons réguliers de la SEQ. Ça se vend 17 $ et quelques. Et c'est vraiment bon. Comme vous pouvez voir, là, c'est léger. Ça a quand même un petit peu de grip.
Oui.
Et il ne faut jamais oublier, en passant, de boire les pinots noirs et les beaujolais à peu près à 16 degrés. Comme vous pouvez voir, il est frais un petit peu. Mm-hmm. Là. Mm-hmm. Il n'est pas aussi frais que moi, mais il est frais un petit peu. Non, mais ça se boit à 16 degrés. Des gens, absolument, boivent un petit peu trop chaud. Fait que même des Bordeaux, des crus comme ça, c'est 18 degrés, mais des beaux gelées.
Ça pilotes. Arrive souvent qu'à minuit, des fois, on boit les vins trop chauds.
Ouais,
on
ça, est ça, trop chaud. Ou trop chaud pour les boire.
Ah, c'est ça.
Je sais pas ce que tu veux dire. Bon, mais là, je suis couché. Ouais. Mais anyway, c'est des bois rafraîchis, mais c'est vraiment bon. Oh, c'est oui. Vraiment bon.
Toujours des suggestions à prix modeste.
Pour ce prix-là, oui, effectivement. On apprécie. Alors, le code pour les gens qui aimeraient s'en procurer, c'est le 139-96847. 1-3-9-9-6-8-4-7 à l'SQ, c'est vraiment très bon et léger.
9-6-8-4-7, c'est parfait. C'est pas comme le gars du National Inquirer qui a donné son numéro de téléphone en plein procès cette semaine. Je pense que c'était c'est une autre histoire.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté.
Avec Maxime Lapierre. Bon vendredi soir, bon début de week-end, Maxime.
Salut, Mario.
Maxime, t'es-tu, si tu donnais une note là, aux séries sur 10 dans l'ensemble, tu sais, on dit toujours, c'est sûr que le niveau de jeu est supérieur à saison régulière, puis ça fait du bien, mais moi, en ce qui me concerne, je suis un peu sur mon appétit.
Dans quel sens? T'es pas satisfait? Ou...
Ben, tu sais, il y a eu beaucoup de matchs à sens unique. Déjà, deux équipes face à l'élimination, sur le bord d'être balayées. On dirait qu'il y a des clubs qui sont pas de calibre. Il y a des clubs qui font de la figuration. Je sais pas comment tu vois ça.
Je suis d'accord. Par contre, je dirais qu'en deuxième ronde, ça va changer dramatiquement. Je pense
oui,
que les fameux match-ups, comme on dit, tu sais, il y a des équipes en ce moment. Tu sais, c'est toutes des analyses différentes, mais comme Tampa Bay, je les avais pris moi pour remporter la série. Par contre, je réalise qu'on est rendu ailleurs mentalement, puis côté passion, on n'a plus la même passion que les équipes qui n'ont pas encore remporté le gros trophée. Puis c'est normal, là, tu sais, c'est l'instinct. Tu sais, à un moment donné, là, ça c'est mon analyse de cette série-là. De l'autre côté, les Islanders, on n'a pas su s'ajuster au niveau hockey côté vitesse dans la Ligue nationale. Là, on paye le prix pas à peu près contre les Hurricanes qui sont beaucoup trop rapides. Les Rangers jouent contre une équipe qui est rentrée par la porte en arrière qui n'a pas rapport en série avec les Caps. Donc, si tu enlèves ces équipes-là, là, après ça, puis tu commences à penser aux affrontements du deuxième tour, je pense que là, ça va commencer pour vrai.
As-tu l'impression, à regarder ça, j'ai posé la question aux amateurs mercredi soir, Maxime, que le Canadien est à des années-lumière de certaines de ces équipes-là? Parce qu'honnêtement, des fois, j'ai l'impression qu'il y a bien des clubs éliminés qui feraient pas pire que des clubs qui sont en série.
Ouais, non, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, il reste que c'est la Ligue nationale de hockey. On qualifie souvent les équipes qui sont en dehors des séries comme des mauvaises équipes, mais c'est pas le cas. C'est vraiment juste le fait qu'il y a 16 équipes en série, puis on peut pas en prendre plus que ça, parce que des fois, tu peux prendre une équipe éliminée, puis tu peux les faire jouer au premier tour, peut-être qu'ils arrivent avec un certain momentum en série, puis ils jouent pas de la même façon, ils sont plus confiants, ils ont moins de blessés. Tu sais, les choses changent vite dans la Ligue nationale de hockey, mais t'as tellement raison, si on pense aux Canadiens, on n'est pas si loin que ça des Islanders, selon moi, puis des Caps, tu sais, il manque pas tant de joueurs que ça.
Dallas, je suis un petit peu déçu, mais en même temps, est-ce que Vegas, qui en saison régulière avait peut-être l'air moins redoutable, là, une fois tout le monde revenu de la liste des blessés, il ressemble au club qui a gagné la coupe l'an passé, là, m'a dire, sont durs à traverser, ils sont
difficiles, pis c'est vraiment, tu sais, on est beaucoup concentré sur les high calls, pis les stones et les blessures, les nouvelles acquisitions, mais la réalité dans cette équipe-là, c'est que t'as 6 défenseurs étoiles théoriquement. Puis ça fait que la relance est rapide. On passe pas de temps dans notre territoire. Il n'y a pas de place pour entrer en territoire défensif de leur côté. On est bon pour lancer la rondelle de la ligne bleue. T'sais, on n'a pas de faiblesse en défensive. Puis on a une équipe d'étoiles à l'attaque. Donc, selon moi, ils sont difficiles à battre. Puis théoriquement, tu n'as même pas le premier goaler, selon moi, dans le filet en ce moment. Là. Aiden Hill, il y a eu des blessures cette année et tout ça, mais il n'est même pas dans le filet. Imagine quand il va revenir, s'il est au même rythme qu'il était l'an passé. On va être difficile à battre à Vegas.
Oui, en effet. Et waouh.
Je vais t'ajouter quelque chose, Mario.
Tu peux ajouter tout ce que tu veux, Maxime.
Ce que tu mentionnais tantôt, que sans dire qu'on est un peu déçu du premier tour, je pense que le hockey s'en va par là, par contre. On essaie d'enlever les grosses mises en échec, les combats. On essaie d'enlever les choses après le sifflet. Puis moi, je pense que oui, c'est important de protéger les joueurs, mais à un moment donné, la ligne est mince entre protéger les joueurs puis enlever la passion. dans les matchs, puis j'espère qu'on s'en va pas trop de l'autre côté, parce que là, on dirait qu'on joue 60 minutes, on prend les résultats, on s'en va à la maison, puis on recommence demain. C'est plus le même style de hockey, puis je comprends très bien que le hockey a évolué, mais je pense qu'il y a quand même un entre-deux.
Ouais, et l'autre affaire aussi, c'est que c'est sûr que là, quand une série part rien que sur un bord, tu sais que ça veillera pas tard à moins d'un gros revirement, là, mais peut-être que là, comme tu sais, il va y avoir des longues séries, puis peut-être qu'on va entrer dans le crunch de ces séries-là dans les prochains matchs. Là. C'est encore jeune, peut-être que j'ai des trop grosses attentes aussi par rapport à cette intensité-là, mais effectivement, ce que tu dis a du sens, c'est que là, ça change la nature des matchs, mais aimes-tu ça, toi, quand il est là, se moucher le nez bien comme il faut après chaque coup de sifflet, ou que t'aimes ça qu'il y a une certaine discipline de ce côté-là, puis une certaine rigueur de la part des arbitres?
Mais moi, la rigueur, j'aime ça quand le match est hors de portée, puis c'est 4-0, oui. Puis il reste 3 minutes, puis là, ça commence à être ridicule. Ça, je suis content. Quand on sort les joueurs, on donne des 10 minutes, le match est fini. Quand c'est 1-1 en deuxième période, qu'il y a de l'intensité, qu'il y a des mises en échec, laissons-les jouer. Tu sais, je te dis pas s'il y a un coup salaud ou quelque chose du genre, mais laissons les gars s'exprimer, laissons la passion prendre le contrôle de l'amphithéâtre. Tu sais, ce qui fait que les gens paient puis les gens adorent les matchs de série, c'est quand on est sur le bout de notre siège, qu'on se lève, qu'on crie, qu'on a beaucoup de passion, puis c'est la même chose pour les joueurs. C'est ce qui fait que le hockey de série est extraordinaire.
Ouais, t'as tellement raison. Je fais une petite parenthèse, toujours dans le monde du hockey. André Tourigny vient d'être confirmé comme entraîneur-chef de l'équipe canadienne pour les championnats du monde. Bon, je sais que c'est pas tout le monde là, qui trippe sur le championnat du monde. D'ailleurs, toi, Suzuki qui y va pas, puis Samuel Montembeau, ça te fait pas un pli?
Non.
Max, non, hein?
Non,
c'est ça,
non,
OK. Non. Ben, moi non plus.
Non, je pense que on peut pas tout savoir non plus. Si t'as un petit bobo qui est pas le style de bobo qui va te faire manquer un match dans la saison, mais que t'as besoin de guérir pour être à 100% lors du camp d'entraînement l'an prochain, c'est une bonne gestion de carrière. Puis ça, faut arrêter de penser qu'on sait tout sur les joueurs. Il y en a qui c'est des raisons familiales, il y en a c'est des raisons de santé, il y en a c'est mental. Donc, faut donner le bénéfice du doute dans ce département-là.
Mais pour revenir au point initial, André, donc, est confirmé comme entraîneur-chef. Je suis content pour lui parce que,
ouais.
Tu sais, veut, veut pas, il a coaché un club dans une situation qui était pas facile, une série de défaites. Puis, tu sais, les coachs, c'est jamais des situations confortables. Confirmé également dans son rôle d'entraîneur de l'équipe qui n'est plus les Coyotes de l'Arizona, là, qui va être à Salt Lake City. Mais ça veut dire que, quelque part, les gens peuvent voir à travers les circonstances dans lesquelles il a manœuvré. Puis ouais. Toujours considéré que c'est encore un des meilleurs entraîneurs, en tout cas à mon avis. C'est sûr qu'on a un parti pris, là, on y parle tout le temps, c'est notre ami, mais content ouais. Pour lui.
100%, puis tu sais, moi c'était mon entraîneur, mais Jet 3, puis je l'ai vu dès le départ que c'était quelqu'un de spécial. Puis
ah,
je
oui?
pense que c'est l'entraîneur idéal pour un tournoi comme celui-ci, parce que il est capable de créer un esprit d'équipe dans une petite période de temps. Tu sais, il a du charisme. C'est un gars qui est très très ouvert, qui respecte beaucoup l'individu, puis il va amener cette équipe là à un niveau comme si ça faisait 82 matchs qu'ils jouent ensemble. Tu sais, c'est un gars qui parle bien, il sait quoi dire. Comment je pourrais dire ça? T'as l'impression que c'est un grand frère plus qu'un entraîneur. Puis c'est un gars très structuré aussi. Puis de l'autre côté, il est demandant dans sa structure. Puis je pense que les deux mix, là, ça fait que c'est un entraîneur idéal.
Tu jouais où, Midget 3, Maxime?
Au Cap de la Madeleine.
OK, OK. T'es originaire d'où exactement, donc?
Repentigny, mais ouais, j'étais pas mal le dernier sur le territoire. J'ai rêvé ça, jouer à Montréal, mais donc ils m'ont envoyé au Cap de la Madeleine.
Repentigny, c'était sur le territoire de Cap de la Madeleine?
Oui, à l'époque, oui. Mais là, okay. Les choses ont changé, là. Mais okay. On était dans la famille de pension, puis c'est parti à un jeune âge.
La 40, pas bien loin, dans le fond, là. Tu sais, c'était pas si pire, mais c'est le fun de se rappeler ces moments-là. Et puis, ce soir, les matchs, qu'est-ce que tu vas regarder ce soir? Ben là, Rangers, Capitals. D'après moi, les Rangers, je sais pas s'ils vont balayer Washington. Canucks, c'est Canucks contre les Predators. Les Canucks viennent de marquer, là. C'est 1-0 ouais. Pour Vancouver. Eux autres, ils ont un test, là. Pas de Demko devant le filet, Maxime.
Pas de Demko, puis je suis un peu inquiet des performances de Peterson. Là. C'est un joueur qui est quand même très important pour eux. Puis en ce moment, on voit pas mal le même style de hockey qu'on voit de la part de Marner à Toronto. Ces joueurs-là doivent prendre contrôle de la situation. Sinon, si c'est pas au premier tour, ça va être au deuxième tour qu'on va dire bye-bye, parce que le hockey dans les grosses équipes, là, tantôt on parlait des équipes qui sont en difficulté, mais les grosses équipes jouent du gros hockey, pas à peu près. Donc ça peut aller vite si tes joueurs étoiles ne sont pas présents.
Nylander, par rapport au mystère entourant sa blessure, que lui-même ne veut pas démasquer, c'est business as usual. C'est quand même assez courant en série qu'on veut pas rien dire sur les blessures. Mais as-tu trouvé ça curieux ou mystérieux, tout le cas William Nylander?
curieux du fait qu'il patine. Puis j'ai vu quelques séquences où il perd l'équilibre. Ça m'inquiète un peu. Est-ce que c'est un manque de confort dans ses bottines ou c'est quelque chose côté équilibre, commotion? J'ai aucune idée, mais on s'entend qu'un joueur talentueux comme lui, qui était très, très performant lors des dernières séries, d'ailleurs, ça fait 2-3 ans que c'est le meilleur joueur des Leafs, selon moi, en série. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de grave s'il ne joue pas.
Qu'est-ce que tu as pensé des commentaires de Sheldon Keefe par rapport à Brad Marchand, en disant que c'est un virtuose, un expert, un artiste pour s'attirer la clémence des arbitres? Pourtant, as-tu cette impression-là? Pourtant, Marchand a souvent été... Ouais. C'est vrai qu'il a changé d'attitude depuis qu'il sait, mais je t'écoute.
Je vais être direct, ça me tape ses nerfs parce que quand c'était contre Montréal en série, on donnait trop de double échecs à Matthews. Quand il y a toujours une excuse. Fait qu'à un moment donné, on peut juste se concentrer à remporter des matchs de hockey puis trouver les ajustements nécessaires pour battre une équipe comme les Bruins. On va aller faire une guerre de médias lorsque la moitié des joueurs se présentent même pas à la patinoire. À un moment donné, comme entraîneur, tu dois décider de c'est quoi la vraie raison pourquoi on perd des matchs. C'est pas toujours à cause de l'arbitre.
T'sais. Moi, je ne sais pas c'est quoi jouer pour Sheldon Keefe. C'est difficile de juger de la qualité d'un entraîneur quand tu n'es pas à son contact. Tu peux pas sentir son énergie. Mais je peux pas te dire que c'est un gars qui m'impressionne beaucoup.
Ben, tu sais, c'est difficile à dire, là, comme tu dis, parce que je le connais pas personnellement. Par contre, les résultats doivent être là à un moment donné en série. Puis l'équipe que je vois en ce moment, que ce soit la structure en avantage numérique qui en arrache pas à peu près, c'est pas normal avec les joueurs qu'on a. Puis c'est pas normal d'être capable de changer un peu les choses pour amener une nouvelle énergie dans l'amphithéâtre puis dans le vestiaire. On dirait qu'on a l'idée que c'est Matthews, puis c'est Marner, puis c'est Tavares, puis si on donne pas avec ces gars-là, tant pis. Il y a d'autres gars qui jouent bien dans l'organisation, qui est des Bertuzzi, des Domi, qui ont de l'énergie. Si c'est eux qui doivent jouer 20 minutes, 22 minutes, ben pourquoi pas leur donner le temps de glace? À un moment donné, si les vedettes que tu as marquent 70 buts en saison puis sont pas capables de te faire remporter des matchs en série, ben t'es assis sur le banc, c'est aussi simple que ça.
En tout cas, ils vont de la pression demain, ils peuvent pas perdre. Ben, tu sais, ils peuvent toujours perdre puis remonter une série 1-3 comme Canadien l'a fait contre ces mêmes Leafs là, en 2021, puis comme c'est arrivé bien souvent dans l'histoire. Mais il reste que à domicile, là, ça pourrait être une soirée embarrassante, ces Leafs. Hey, si les Leafs traversent pas la première ronde encore une fois cette année, là, je peux pas croire qu'il y aura pas un remue-ménage majeur. En tout cas, on va toucher à des gros morceaux, là.
Bon, ouais, là, c'est fini, je pense. Si tu passes pas le premier tour, il y en a un de la gang qui part, là. Que ce soit, peut-être, c'est sûr que c'est pas Matthews, mais ça va être Marner, ça va être un Nylander, ça va être une tentative de transaction de gros contrat d'un gars comme Tavares. On a pas le choix de bouger, là. Là, c'est impossible. Le mix, ça marche pas, ce mix-là.
Colorado devrait gagner ça ce soir. Oilers King, je t'ai embêté, je flippe le 30 sous dans les airs, mais Los Angeles, là, même s'ils perdent la série, moi, j'ai mis ça en 7. Ils ont quand même, tu sais, c'est un gros, physiquement, un gros club. T'as vu, Byfield, Pincé, McDavid l'autre soir. Ouais. Carpenter, Beaubé en prolongation, là. Ça sera pas un pique-nique, cette série-là.
Mais non, mais c'est toute une équipe de hockey. C'est une équipe qui a de l'expérience. C'est une équipe qui a des jeunes joueurs aussi qui amènent de la vitesse, des jeunes jambes dans l'organisation. T'as des joueurs de centre comme Dano, comme Kopitar, comme Byfield qui joue à l'aile, comme Dubois. Il n'y a pas d'organisation qui ont des joueurs aussi gros, aussi talentueux. T'as des défenseurs comme Dardy qui ont beaucoup d'expérience, qui patinent encore très bien. T'sais, devant le filet, peut-être qu'il y a un point d'interrogation, mais il reste que cette équipe-là a appris à gagner dans les dernières années. T'sais, on est capable de trouver une façon de remporter des matchs, même si on n'est peut-être pas l'équipe la plus puissante sur la patinoire. On l'a vu lors du dernier match. T'sais, on pensait que les Oilers avaient dominé, ben on a décidé qu'on... C'était pas ça qui se passait ce soir, puis on a remporté un gros match.
Rempe vient de sortir Van Riemsdyk dans le match de Washington, puis GS, puis une amie de texte également me dit que les gens eurent déjà les Capitals. Il y avait des attentes un petit peu démesurées par rapport à leur équipe cette année, là, qui maintenant vont être obligés de retourner peut-être dans les bas fonds, eux aussi, pour repêcher. J'ai hâte de voir Pittsburgh des grosses décisions. On en reparle la semaine prochaine, de toute façon. Fait que, y a-tu d'autres choses qui te gossent dans ces séries-là en terminant, Max?
Non, je pense que le mystère des Golden Knights ça va être difficile de trouver une façon de battre cette équipe-là, selon moi. Je tiens à mentionner, tu regardes toutes les positions, c'est extraordinaire. Marchessault joue encore comme un gagnant du Conn Smythe. On a vraiment une bonne équipe de hockey. Je vois pas comment on va battre cette équipe.
Ouais, ça va être difficile. Bonne fin de semaine. Merci d'avoir été là, Maxime.
Salut, Mario. Bonne fin de semaine.
Bye-bye, toi aussi.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Avec Daniel Sauvageau. Bonsoir, Daniel.
Salut Mario, comment vas-tu?
Ça va très très bien, content de te retrouver. Quelle est la série qui te fascine ou qui te divertit le plus actuellement là, des 8 affrontements Ligue nationale?
C'est drôle parce que je t'écoutais là avec Maxime, puis lorsqu'on parle justement que puis toi tu disais ah, je suis pas sûr moi avec les Oilers puis les Kings, mais moi c'est jusqu'à date, c'est vraiment ma série préférée. Il s'est marqué 19 buts depuis en deux matchs en fait, et le troisième est ce soir, mais tu sais le premier match remporté par les Oilers 7-4 et ensuite là, par les Kings 5-4. Lorsqu'on dit que le hockey c'est de l'émotion, c'est un show. Oui, on les laisse jouer dans cette série-là. Pourquoi? Parce que c'est basé sur la vitesse, sur la tension, l'activation des défenseurs. Tu sais pas à quoi t'attendre. Pour moi, c'est quasiment une leçon d'offensive. Maintenant, tu sais, au cours des années, on dit tout le temps, si tu veux gagner, aller jusqu'à la coupe, si tu veux gagner des championnats, des Jeux olympiques, ben le match commence 0-0. Donc, si tu investis à bloquer des tirs, à t'assurer que ton gardien but et c'est vraiment des vrais premiers, ben cette série-là, là, ça s'en va complètement à l'extérieur de ça. Tu as deux gardiens de but, Skinner d'un côté avec les Oilers, qui a une moyenne de 8,60 en saison de 8,79. Puis à date, ben il a donné 4,42 buts en deux buts en deux matchs. Puis de l'autre côté, Talbot, ben à l'âge de 36 ans, en deux matchs, c'est presque 5 buts, puis une moyenne de 8,67. Alors, tu sais, quand tu regardes une série, puis tu dis, me semble que le hockey moderne, là, ben il est là, dans cette série-là. Tout change, il n'y a pas d'accrochage, il n'y a pas de gna-gna après les sifflets. C'est vraiment basé.
Il y a des grosses mises en échec. T'as vu Dano se faire ramasser par Hyman l'autre soir? J'en suis pas revenu qu'ils reviennent dans le match d'ailleurs.
Oui, parce que tu dis, bon, ils ont des protocoles, ils ont des médecins, mais en même temps, oui, c'est une grosse mise en échec, mais c'est parce que c'est tellement vite que lorsque tu t'es propulsé par toi, tu patines aussi rapidement que l'autre, puis que tu t'en vas quasiment dans des directions complètement opposées, ben c'est comme ça. Fait que c'est pas nécessairement basé là-dessus. Oui, l'approche au porteur, ton timing, de venir au bâton, de finir au corps, ben c'est une des raisons, en tout cas, une des que j'aime tellement cette série-là, parce que justement, c'est basé sur ce que j'aime du hockey, c'est-à-dire, oui, marquer des buts, mais en même temps, je la regarde avec des yeux de coach en disant comment que une de ces deux équipes-là peut aspirer au grand championnat lorsque tu as des gardiens, Skinner n'est pas, je pense qu'il ne l'est qu'il est pas confirmé là, dans le match de ce soir, mais est-ce qu'on peut vraiment penser à aller jusqu'au bout? Puis on en a parlé, toi et moi, au printemps dernier en disant les Oilers se doivent d'aller chercher un bon gardien de but. Ils s'attardent, évidemment, mais année après année, ils sont quand même dans les séries d'après-saison.
Juste faire une petite précision sur les pourcentages d'efficacité que tu donnais. C'est le pourcentage des séries, parce qu'en saison, Skinner est à 905. Mais ce qui est pas énorme, là, tu sais, dans le fond, ça se compare à Samuel Montembeau ici. Mais j'avoue que moi aussi, pour toutes sortes de raisons, parce que je peux voir la fin des matchs avec le son également, c'est difficile pour moi d'embarquer émotivement dans Floride-Tampa parce que je vois la première période, puis après ça, je la regarde du coin de l'œil là, sans le son. Fait que moi aussi, veux pas, Edmonton, Los Angeles, puis elle m'intrigue parce que je pense que Edmonton pourrait vraiment aller jusqu'au bout s'il traverse Los Angeles. Ben, remarque que, tu sais, on parlait avec Maxime tout à l'heure, c'est quasiment décourageant de regarder jouer Vegas aussi, là. Tu sais, ça va être dur à traverser, mais le champion se trouve-t-il dans l'Ouest à la lumière des premiers matchs? Il y a des bons clubs dans l'Ouest, franchement, là.
Il y a des bons clubs, il y a peut-être moins de profondeur, en tout cas, si on parle de ces deux équipes-là, au niveau, justement, des gardiens de but, mais Vegas, non, moi, définitivement, je ne les compte pas battus. C'est comme si... au niveau cérébral, là, il se rappelle que les séries d'après-saison, c'est très long. Alors, j'ai l'impression de gérer justement la longévité de ce que ça prend. C'est un long marathon, puis on dirait qu'ils sont partis plus lent que l'année dernière. Et en même temps, à un moment donné, il y a eu un petit creux, puis ils se sont quand même, là, ils ont quand même terminé la saison. Puis personne ou à peu près les voyait là l'année passée. Là. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression que moi, je les compte pas battus, mais pas du tout, à cause justement là qu'ils ont l'expérience. Mais j'ai l'impression que c'est mental en disant, oh, alors, partons pas trop en fou là, parce qu'on durera pas. Alors, c'est la raison pour laquelle moi, je ne les compte pas battus, mais pas pour longtemps.
Là,
dans une autre série, vas-y.
Non, mais je l'ai dit, Dallas, ils ont rappelé Maverick Bourque, qui tire de l'arrière 2-0 contre Vegas, mais là, je pense à Tampa Bay, tu sais, qui a une bonne équipe encore sur papier, mais hey, 0-3 en première ronde déjà contre la Floride. Que Patrick, avec les Islanders, la même situation, mais on sait qu'il y a un écart de calibre entre les Islanders et la Caroline. Dans le cas de Tampa Bay, on disait l'an passé, éliminés en première ronde, ils ne seront pas fatigués cette année. Puis il y en a déjà qui parlent de fatigue. Mais quand tu regardes ton club, ce que refuse de faire, d'ailleurs, Pittsburgh, qui est sur un déclin depuis quelques années, malgré une belle fin de saison, d'échanger des gros morceaux pour essayer de se rebâtir en espérant qu'ils vont toujours gagner avec leurs vétérans. J'ai hâte de voir comment Julien va gérer la suite si Tampa Bay se fait sortir en quatre par la Floride.
Oui, parce qu'au début de l'année, on se disait, ben, c'est-tu un désavantage d'avoir Vasilevskiy blessé? Est-ce que même, moi, je me posais même la question, c'est tellement un gros morceau à cette équipe-là, est-ce qu'ils vont être capables d'être dans les séries d'après-saison? La réponse, on la connaît. C'est oui. Mais maintenant, est-ce que ce début de saison-là de Vasilevskiy, rappelle-toi aussi l'année passée, avait de la difficulté à bien démarrer les deux premiers matchs de chacune de. Puis si on retourne même de 2 ans dans chacune des séries.
Mm-hmm,
alors moi, je m'attendais justement après la deuxième match de dire bon ben là, OK, là, il va sortir, c'est comme slow, mais on se doit à Tampa d'avoir un Vasilevskiy en pleine forme. Et c'est la raison pour laquelle tire de l'arrière dans cette série-là, 3-0.
Oui, ils volent pas de match, puis Bobrovsky lui a fait la différence. On a grimacé quand on a vu le gros contrat qu'il a obtenu, mais sur une longue, c'est quand on analyse ça avec rétrospective sur une longue période, ben finalement, ça n'a pas été une si mauvaise dépense que ça. Ils sont bien contents de l'avoir, là.
Ben oui, parce que là, ils sont où ils sont. Si c'était, je ne penserais pas que ça va revenir à 0-3. Il y a quelques équipes qui peuvent le faire, mais dans la façon jusqu'ici que Tampa a joué, je ne crois pas. Mais oui, pour revenir à Bobrovsky, j'ai l'impression que il donne du calme à ses défenseurs. Tu sais, des fois, quand tu mets vraiment le radar sur la fameuse caméra sur les gardiens, puis tu vois comment qu'il guide, comment qu'il se déplace, comment qu'il se relève. Des fois, il se relève pas aussi vite parce qu'ils savent que justement, en termes de possession et de sortie de zone, le groupe de défenseurs fait leur travail. Moi, j'aime beaucoup le calme de ce gardien-là et j'ai l'impression que c'est ça qui fait la différence dans cette série.
C'est à voir pour la suite ce soir, mais je repense au Canadien. Est-ce que tu te dis, comme je demandais à Maxime, que hey, on n'est pas là pantoute quand tu regardes les séries actuellement de la première ronde ou pas si loin?
Ben, c'est pas si loin, ça veut dire combien de temps. Mais tout va dépendre. Il y a tellement dans les mains de Ken Hughes, il y a des cartes qui s'appellent des choix au repêchage.
Ouais.
Et ces choix de repêchage-là pour cette année et pour les deux prochaines années, ça va devenir très important lorsqu'on va voir le noyau qu'on connaît grandir et évoluer avec des jeunes dans l'organisation du Canadien. Ça fait quand même 2 et 3 ans que le Canadien, on le sait, va avoir beaucoup de jeunes qu'on va potentiellement vouloir venir chercher chez nous ici à Montréal. Alors, ça peut revirer vite une équipe avec ce genre de cartes-là dans ton jeu parce qu'à un moment donné, ça devient des as, des jeunes dans ton organisation, des jeunes de qualité. Alors, j'ai l'impression que c'est comme ça que le vent pourrait changer très rapidement. Parce qu'il manque quand même des éléments qui sont importants, mais qui pourraient être justement achetés avec les choix de repêchage, qui, comme je te dis, moi j'appelle ça des as dans un jeu de cartes.
Absolument. Daniel, Montréal qui affronte Ottawa demain en LPHF, permets-moi une petite parenthèse et de parler à la DG de notre équipe féminine, en plus d'être notre collaboratrice à LNH. Donc, vous devez être content, contente de pouvoir jouer vos matchs locaux des séries à la Place Belle. Je pense qu'il va y avoir une belle ambiance, sans crêcher sur l'auditorium. Ça va permettre à plus de monde de vous voir.
Oui, c'est exactement une de ces raisons-là, parce qu'on a joué notre dernier match là cette semaine à l'auditorium. C'était vraiment magique. Les gens sont restés plus d'une demi-heure, Mario, suivant le match. On s'est adressé à la foule. Beaucoup d'enfants. Moi, ça me surprend. Il est rendu 10 heures le soir. Il y a beaucoup d'enfants. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est lorsqu'on m'amène des dessins que j'encadre puis que je mets dans mon bureau. Et encore une fois, j'en ai reçu un là, à ma sortie de l'aréna. C'est extraordinaire. Et oui, aujourd'hui, on a annoncé que les séries d'après-saison, les billets vont être en vente là, dès la semaine prochaine. c'est 10 000 personnes. Encore aujourd'hui, les gens disaient, quand est-ce que ça va sortir? Est-ce que je peux en réserver d'avance? Alors, j'ai l'impression que ça va faire comme le Centre Bell. Ces billets, lorsqu'ils vont être en vente, vont être vendus très rapidement, Mario.
C'est extraordinaire. J'ai très hâte de voir ça, le hockey. On va avoir un club en série à Montréal. Yes!
Et à la blague, Catherine Dubois a dit, ah, c'est le fun parce que là, on est là où les gars sont pas là. Et puis, Raphaël Harvey Pinard a commencé à taquiner, justement, Catherine Dubois sur les médias sociaux. Alors, ça crée une belle ambiance. Et encore une fois, là, je remercie tous ceux et celles qui sont autour, évidemment, qui nous supportent, y compris grandement les médias.
Bonne fin de semaine, Daniel. Bon match demain après-midi. Et ce soir, merci. Pour en ce qui concerne les séries des hommes. Salut!
Salut!
Bye, Daniel.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport pour les fidèles du sport.
Très heureux de l'accueillir en studio. Lui qui était à 500 la coupe il y a quelques semaines à peine, qui se prépare pour une grosse activité, la 6e édition de Patrice Bernier et ses amis, qui est de retour, qui change d'endroit, qui aura lieu au Collège Montmorency ce dimanche 28 avril, 14h, Collège Montmorency de Laval. Mon capitaine qui est en studio, Patrice Bernier. Bonsoir, Patrice.
Hey, bonsoir, Mario.
Hey, tu passes en ville, c'est le fun. Tu sais que tu peux venir, t'as une carte, on va te donner un passe magnétique, tu peux rentrer ici quand tu veux.
On va voir, je suis pas souvent dans Montréal, mais vu que j'étais là, je vais arrêter, de toute façon, on sait que c'est toujours mieux quand t'es face à face puis tu parles avec la personne que quand on est au téléphone.
C'est sûr que ça se compare pas. Parle-moi de cette activité-là. Comment elle est née? C'est une 6e édition, mais je vais aller à l'origine, là, la genèse de l'idée de départ de ça, de Patrice Bernier et ses amis.
Ouais, ben écoute, franchement, c'est voilà, en même temps, c'est présenté par la compagnie Guy, qui est de mon ami Alexandre Quénol, qui est bon dans l'événementiel. Et il y a plusieurs années, juste avant fin de ma carrière, j'avais été un de ces événements. Il lui a fait un petit gathering dans le coin de Laval. Et je me dis, tu sais, il y a beaucoup de matchs de charité au hockey.
Oui.
Puis moi, j'ai grandi dans le monde du soccer, surtout pendant le temps que j'étais en Europe. J'ai vu, il y en a plein d'autres de matchs de charité du soccer. Donc, comment on peut faire ici une forme, puis justement aller amasser des fonds? Puis à ce moment-là, c'était pour la Maison d'Haïti qui avait un building, qui avait besoin d'aide de parce qu'ils avaient plus les subventions qu'ils avaient avant, fait qu'il fallait les aider. Fait qu'on s'est dit, bon, OK, on fait un match futsal. Le futsal en étant gymnase, qui est une forme plus rapide de soccer. Puis là, après ça, on s'est dit, ben OK, on veut des joueurs de soccer, mais moi, je voulais une genèse qui permettait de aussi promouvoir le soccer. Donc, c'était pour amasser des fonds, mais en même temps, juste démontrer à des facettes de personnes que le soccer, c'est quand même un sport assez agréable, même si on n'a jamais joué, qui fait qu'on a une quarantaine, une cinquantaine de personnalités qui viennent de différentes sphères. Puis à travers le temps, on a eu G du Temple, on a eu Laurent Duvernay-Tardif.
Oui.
Duvernay-Tardif à la 5e édition. On a eu Corneille. Puis là, on va avoir Lionel Carman. Donc, on a du monde un peu de partout, des influenceurs, des gens de médias, des musiciens, des acteurs, et puis des anciens professionnels comme Asun Kanawa, Vandry Lefebvre, Rocco Placentino qui ont joué pour l'Impact, qui viennent là. Fait qu'on a une touche de... Chaque équipe a des anciens pros, puis là, on va avoir Amy Walsh aussi, avec Isabelle Morneau, qui sont au Temple de la Renommée du soccer canadien féminin. Et puis voilà, c'est depuis en 2017.
C'est tellement rassembleur, le sport. Hein? Oui. C'est le fun. C'est le fun. Ça crée des liens. Puis je suis convaincu, quand on y a participé une fois, même si on peut pas être là tous les ans, il y a quelque chose. Puis qu'est-ce que tu choisis comme cause à encourager? Parce qu'il y a, bon, t'invites les gens à y aller, puis on recueille des sommes que tu vas redistribuer,
oui,
par la suite.
Les fonds vont aller à la Fondation Patrice Bernier. Depuis la 5e édition, ben, j'ai créé la Fondation Patrice Bernier. Avant, on aidait directement d'autres organismes. C'est juste que j'ai compris que là, je pouvais peut-être aider plus concrètement moi-même à travers la fondation, plus ou moins. Et on a déjà invité des enfants à venir à des matchs du CF Montréal, juste pour faire vivre des expériences, parce que c'est niaiseux, mais on se dit, bon, une expérience CF Montréal, OK, je vais aller même, mais il y en a beaucoup, c'est pas quelque chose qui est accessible à eux, c'est pas quelque chose qu'ils peuvent se permettre. Ou il y en a d'autres jeunes qu'on donne des bourses d'études, parce que il y en a qui ont besoin d'un coup de pouce. On sait que le sport, c'est plus cheap. Et il y en a qui, pas tout le monde vient de, ont le privilège. Mais c'est surtout pour leur donner, comme tu l'as mentionné, que c'est le sport, c'est rassembleur. Ça permet aussi le dépassement de soi. Ça permet la socialisation. Donc, c'est d'aider ces jeunes-là à graviter vers le sport et d'y rester. Et puis, en plus, on le sait, il y a les jeunes, vont de moins en moins dehors. Donc, on a une réalisation encore plus de devoir pousser le sport et l'activité physique pour la santé et tous les bienfaits qui viennent
avec. C'était exactement ça que je pensais. Dans ta jeunesse, tu étais bon dans plusieurs sports, dont hockey, soccer. Fait que je sais pas, as-tu goûté au plaisir de jouer dehors au hockey pour soccer ou tu étais trop vite dans l'élite puis tu étais tout le temps dans des lieux?
Non, parce que tu sais, maintenant, c'est sûr, on regarde les enfants puis ils sont sur la glace 12 mois l'année, ils sont dans un complexe sportif 12 mois l'année. Moi, je me rappelle que mes meilleurs moments, c'était jouer au parc avec mes amis au soccer, jouer dans la rue au hockey, ou aller à la patinoire, parce que t'as les heures qui sont officiellement allouées,
encadrées,
mais t'as les heures non quantifiables, que c'est là que tu développes, si on peut dire, ta game. C'est là que tu développes ta créativité. C'est là que tu développes ta confiance que je suis capable de faire ces choses-là contre d'autres ou tenter
contre
des choses.
Plus vieux, des fois, tu sais, pas dehors, des fois, là, tu joues tes jeunes hommes, tu joues contre un adulte, là.
Tu sais, quand je coach, souvent, au soccer, on aime donner des dossards pour avoir différence de couleur. Puis des fois, moi, je dis, mais pourquoi vous donnez des dossards? Moi, j'ai joué dans la rue parce que y a pas de dossards, là. Tu savais qui était dans l'équipe et qui n'était pas dans l'équipe. Fallait que tu lèves la tête pour donner le ballon aux joueurs qui étaient dans ton équipe. Donc, c'est de la prise d'information sans devoir savoir que, OK, eux autres sont les rouges, puis nous, on est les bleus.
C'est tellement
et,
vrai.
Bon. Ou même à la patinoire, c'est bien. Tout le monde avait un maillot, un chandail du Canadien, un chandail de l'autre équipe, mais tu savais qui jouait dans ton équipe. Je passe pas à la rondelle à lui, je passe à la rondelle à lui. Donc, moi, oui, j'ai grandi à jouer dans la rue, à traîner, je vais pas dire traîner dans la rue, mais à faire du vélo, se promener, à jouer faire d'autres sports aussi. On faisait du tennis, on a joué au baseball, on a joué au, j'ai fait tous les autres sports possibles. Même si j'étais officiellement dans deux, j'ai touché à pas mal de sports, ce qui m'a développé. Puis en plus, surtout mes amis. Tout ce qu'on faisait, c'est le matin, on se levait, on s'appelait, parce que tu sais, il n'y avait pas les cellulaires dans le temps. C'était, on s'appelait. Bon, on se rencontre où? On va où? On fait quoi? Puis bon, on part, puis on passe la journée. Puis après ça, c'est nos parents qui appellent les autres parents pour dire, ben, il faudrait qu'ils rentrent pour souper, là. Donc, c'était comme ça à l'époque. Je présume qu'il y en a d'autres, mais on dirait que c'est de moins en moins parce qu'il y a les tablettes. Fait qu'ils font juste se parler directement à travers la tablette.
C'est ça, c'est quoi? C'est une autre réalité, mais tu sais, tout n'était pas parfait dans notre enfance, là, mais j'échangerais jamais toutes ces heures-là passées à jouer dehors, à faire du sport dehors contre n'importe quelle tablette.
Tout à fait,
au monde.
Je suis d'accord avec toi.
Aïe, 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 qu'est-ce que le futsal, là, la formule futsal, oui. c'est pas exactement le soccer intérieur comme qu'on a eu. C'est
non,
ça?
C'est pas le soccer en bande, c'est dans un gymnase, c'est un peu comme un court de basketball. Le ballon, il est plus lourd, donc il rebondit pas. On joue souvent à 5, donc 4 joueurs plus un gardien de but. C'est plus rapide, donc on a choisi cette forme-là aussi parce que je m'étais dit, si on va jouer sur un vrai terrain de soccer, pas tout le monde est en forme, puis t'as des grosses distances, puis tu peux te sentir pas engagé dans le match. Fait que là, en futsal à 5, puis là, autour à Patrice Bernier et ses amis, on a 4 équipes. Ça va vite. Et c'est fou comment les gens adorent l'expérience parce qu'ils se sentent dedans. Puis c'est fou comment tu réalises comment les gens sont compétitifs. Parce que tu dis, personne, il y en a qui sont comme, j'ai jamais joué au soccer. Puis après ça, ils arrivent sur le terrain, puis c'est comme, ah non, là, on perd pas. Là, ils disent, moi, je sais c'est quoi mon rôle. Puis je me rappelle la dernière édition, on avait Maxime Lapierre, tu sais, qui avait joué peut-être il y a longtemps avec ça. Puis il a dit, moi, là, je sais que lui est bon, là. Je vais faire comme ma job de la Ligue nationale, je bloque lui. Là, après ça, on s'occupe, je te laisse Patrice faire le chemin pour aller marquer. Donc, il y a cette forme-là qui est plus rapide, plus engageante et qui permet aussi le changement rapide aussi avec les gens. Et donc, on a choisi le futsal parce que c'était ce que je pensais qui permettait à les gens de dire « Ah, j'apprécie mon expérience ». Parce qu'en même temps, on invite ces personnalités-là à dire « Bon, ils viennent, mais on veut qu'ils… » Ce que j'adore de l'événement, c'est qu'à la fin… Ben, beaucoup des personnalités sont comme, hey, l'année prochaine, moi, j'ai aimé la vibe, j'ai aimé ça. On a Olivier Primo une année où il joue, il dit, jamais joué au soccer, Patrice. Puis il finit, puis il dit, hey, je veux m'inscrire dans une ligue. Donc, en même temps, comme j'ai dit, on avance des fonds.
Bon.
Puis en même temps, ben, il y a la promotion de mon sport que les gens sont comme de loin, ils le voient. Mais quand ils vivent, puis là, ils l'apprécient encore plus, puis peut-être certains d'entre eux sont plus peut-être venus au Stade Saputo et ailleurs, mais il y a ce facteur-là aussi de mettre mon sport de démontrer les bonnes
absolument.
Valeurs de mon sport et le beau côté.
C'est tellement un beau sport, puis c'est génial. Et en plus, pour une bonne cause, je vous le rappelle, c'est au Collège Montmorency de Laval à compter de 14h. Il me reste un petit 2 minutes, pas tout à fait, Patrice. Columbus Crew, le Crew demain contre Montréal. Montréal a pas joué un mauvais match la semaine passée. Je sais qu'on voulait apporter des changements en fin de match, puis Corbeau est rentré peut-être un petit peu trop tard. Je sais pas si ça aurait fait toute la différence. Je sais que Jérémy plaide pour Wanyama, mais Corbeau aussi arrive un peu dans le même rôle, mais il va falloir à fermer le match. Là.
Oui, oui, ben, tu sais, les statistiques sont là pour nous montrer que les 15 dernières minutes, le CF Montréal souffre présentement. Là, il y a aussi l'adage qu'ils sont revenus à la maison, devenir plus offensif, sacrifier un peu la défense, mais c'est de rester concentré en fin de match parce qu'ils ont marqué à la 88e minute, puis ils ont pris le but 4 minutes plus tard. Donc, mais ils sont quand même en bonne posture parce qu'il faut pas. Là, c'est la critique de le match, mais ça empêche que la saison, début de saison, est quand même pas mal pour avoir juste joué à deux matchs à domicile. Mais il faut qu'ils rectifient les fins de match, d'être plus organisés et concentrés.
4 points sur 6 dans ces deux matchs à domicile, c'est loin d'être la catastrophe. Deux victoires sur la route également. T'as-tu un coup de cœur pour un des joueurs? Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux visages. Est-ce qu'il y a un gars qui te plaît particulièrement?
Oui, moi, dès que j'ai appris que la venue de Dominik Yankov. Parce que je crois que depuis que Georgi Mihailovic est parti, le rôle de créateur a pas été rempli. Et lui, il est un profil qui est très intéressant s'il reste en santé.
Ouais.
J'aimerais juste dire aux gens, si vous voulez des billets, c'est à pbetsesamis.com. C'est dimanche 28 avril au Collège Montmorency. Donc, si vous voulez vous procurer, c'est pour une bonne cause. En même temps, vous avez la chance de voir plusieurs personnalités évoluer au soccer au Collège Montmorency.
Puis, je vais le répéter, Patrice, à quelques reprises pendant la soirée. Merci de ta visite.
Merci encore, Mario. C'est un grand plaisir. Toujours un plaisir de jouer avec toi.
Je ne sais pas si tu veux prolonger. Prenez un petit verre de vin.
Les amateurs de sport.
C'est 23.